Début d'une nouvelle série de la Fabrique de l'Histoire ce matin, une série qui exceptionnellement durera jusqu'à vendredi compris et qui dressera le portrait de 5 villes en mouvement. Après le 37e épisode de notre feuilleton La Fabrique de la Guerre Froide, consacré ce matin au voyage secret de Ho Chi Minh à Moscou, nous aurons le plaisir de recevoir l'historienne Isabelle Bacouche qui publie chez Créafis Paris Transformé, le Marais 1900-1980, consacré à l'évolution d'une partie du quartier parisien du Marais dans la première partie du XXe siècle et plus particulièrement pendant la Seconde Guerre mondiale et dans les suites de la Seconde Guerre mondiale. Puis l'historien Christophe Granger nous parlera de l'œuvre qu'il préface pour les toutes nouvelles éditions Anamosa, dont il est le directeur scientifique, un ouvrage de près d'un siècle signé d'un journaliste et poète très connu aux États-Unis, Carl Sandburg, et consacré aux émeutes raciales qui enflammèrent Chicago en profonde transformation urbaine après la Première Guerre mondiale. Mais tout de suite, le 36e épisode de notre feuilleton préparé par Anaïs Quien, La Fabrique de la Guerre Froide.
We must remember that Australia, New Zealand and Canada.
President Truman has just announced that Soviet Russia has the atomic bomb.
I believe in the Soviet system. And here I was working for the FBI, the enemy.
La fabrique de la guerre froide. Au début de l'année 1950, Ho Chi Minh, soutenu par la nouvelle Chine communiste, part clandestinement pour Moscou afin de négocier l'aide soviétique dans sa guerre contre le pouvoir colonial français qui refuse l'indépendance du Vietnam. Céline Maranger.
Ho Chi Minh comprend que là, l'heure est grave et il décide de s'y rendre de ses propres moyens. Donc il a 60 ans, il se déguise en paysan et il passe la frontière chinoise, je veux dire, on est en pleine guerre, hein. Il passe la frontière chinoise déguisé en paysan et il fait ensuite route vers Pékin pendant 2 semaines et il est accueilli à mi-chemin à la mi-janvier. Et à cette occasion, on lui apprend que la République populaire de Chine a reconnu la République démocratique du Vietnam. La reconnaissance intervient le 16 janvier 1950 et le même jour, Mao demande à Staline d'inviter Ho Chi Minh à Moscou. Donc l'Union soviétique va reconnaître la République démocratique du Vietnam à la fin du mois de janvier. Et puis à la suite de cette reconnaissance, tous les républiques populaires d'Europe de l'Est font de même. Staline était assez réticent. Par la suite, il a plusieurs fois regretté ouvertement. Il considérait que c'était un peu prématuré et que ça le mettait en porte-à-faux vis-à-vis des Français. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce mois de janvier 1950 n'est pas seulement important parce que le Viet Minh obtient la reconnaissance à la fois de la Chine et de l'Union soviétique, mais aussi parce que le parti se réunit dans les montagnes et prend plusieurs décisions capitales. D'abord, il décide de préparer une offensive de grande ampleur, donc de passer à l'offensive. Jusqu'à présent, ils se sont contentés de mener des opérations de guérilla. La deuxième chose, c'est qu'ils ont promulgué un ordre de mobilisation générale dans les zones qu'ils contrôlaient. Donc ils vont recruter de plus en plus de jeunes hommes. Et puis la troisième chose, c'est qu'ils vont afficher leur affiliation au camp socialiste, qui n'était pas clair jusqu'à présent. Ho Chi Minh est à Moscou à la veille de la conclusion de l'accord entre l'Union soviétique et la Chine. Il assiste aux festivités qui sont données dans la soirée du 14 février pour fêter justement l'accord, la conclusion de l'accord. Et pendant cette fête, à laquelle Staline a accepté de se rendre, alors que c'était en dehors du Kremlin et que c'était vraiment contraire à ses habitudes, et donc il a quand même fait honneur à Mao à la toute fin de son séjour, eh bien, Ho Chi Minh suggère à Staline de signer un accord similaire Et Staline se gausse de son idée, tourne sa proposition en dérision en lui faisant remarquer qu'il ne pouvait pas signer quoi que ce soit avec lui puisqu'il était venu incognito à Moscou. Ho Chi Minh du tac au tac lui répond qu'à cela ne tienne, on peut organiser, il peut reprendre l'avion et on peut organiser, faire un petit tour de Moscou en avion et puis à sa descente d'avion, organiser une cérémonie officielle. Et là, Staline aurait... rit en faisant remarquer que les Asiatiques avaient une imagination débordante. En tout cas, c'est ce qui reste dans les archives. Voilà. Donc, ce qui est très important, je pense que la victoire des communistes chinois, elle a des implications très importantes, évidemment pour le Viet Minh et dans la guerre d'Indochine. On passe à une guerre conventionnelle, c'est-à-dire que le Viet Minh a jusqu'alors mené pour l'essentiel une guerre de guérilla. À partir du moment où la République démocratique du Vietnam est reconnue, les Soviétiques comme les Chinois vont livrer des armes. Les Chinois vont envoyer des conseillers de très haut rang au Vietnam pour propager le maoïsme, mais aussi pour organiser les opérations militaires. En août 1950, les Soviétiques larguent des armes dans les zones, au-dessus des zones qui sont contrôlées par le Viet Minh. Et le mois suivant, en septembre 1950, le Viet Minh lance une très large opération le long de la frontière chinoise qui va avoir des conséquences désastreuses pour l'armée française. Et grâce à la réussite de cette opération, d'abord ils vont évidemment gagner en confiance et puis surtout ils vont réussir à ouvrir des voies de passage vers la Chine, donc à faciliter l'acheminement du matériel, de l'aide, de l'assistance et puis évidemment des armes. Donc la deuxième conséquence de la victoire des communistes chinois, c'est que la guerre s'internationalise. Dès février 1950, les Américains augmentent de manière significative leur aide au Vietnam. Ils commencent à envoyer de plus en plus de conseillers et puis à soutenir aussi l'effort de guerre français.
Voilà pour ce 37e épisode de notre feuilleton La Fabrique de la Guerre Froide, préparé par Anaïs Quien et réalisé par Françoise Camard. Comme tous les autres, vous pouvez les télécharger séparément de l'émission du jour et garder ainsi toute la collection avec vous. Bonjour Isabelle Bacouche.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour deux livres. Un principal dont on va parler puisque vous en êtes la seule auteure et un autre qui vient également de paraître aux publications de la Sorbonne, un résultat d'une journée d'études qui s'appelle Notre-Dame et l'Hôtel de Ville, un carnet Paris du Moyen-Âge à nos jours, dirigé par vous, Boris Bov, Robert Desimon et Claude Gauvin. Et celui dont vous êtes la seule auteure, c'est Paris transformé, Le Marais, 1900-1980, paru dans une très belle édition aux éditions Créafis. C'est votre semaine à la Fabrique de l'Histoire, puisque vous serez encore demain avec nous pour votre premier travail, votre travail de thèse autour de la Seine, puisque demain nous allons longer la Seine dans le documentaire que nous avons réalisé avec Renaud Delmar, avec vous et d'autres historiens et historiennes comme Arlette Farge, Pascal Horry, ou encore Karen Bowie et Quentin Deluermoz, pour raconter l'évolution de ce fleuve tout au long des années 1750 jusqu'à 1900. Et là, vous nous racontez l'évolution d'un quartier à travers une partie simplement de ce quartier. C'est le quartier du Marais à Paris, transformé entre 1900 et 1980 à travers l'exemple de l'îlot 16. Alors, cet îlot 16, déjà, il faut peut-être nous le présenter. Vous étiez venu il y a quelque temps pour nous le présenter dans la Fabrique de l'Histoire, mais tous nos auditeurs n'étaient pas à l'écoute. Alors, qu'est-ce que cet îlot 16, Isabelle Bacouche ?
L'îlot 16 est un des 17 îlots insalubres qui ont été dessinés au début du XXe siècle par la préfecture de la Seine, qui dirige Paris, il n'y a pas de maire. Et l'idée, c'est de corréler un état du bâti, on va dire, assez décrépit, et la mortalité par tuberculose. Donc il y a 17 taches depuis 1920 sur le territoire parisien. Et c'est une sorte d'obsession des pouvoirs publics que d'arriver à mettre à bas ces immeubles et surtout chasser les populations qui sont aussi désignées comme indésirables.
Alors vous êtes intéressé pas à ces 17 îlots, il y en a du côté de Saint-Méry, du côté du Père-Lachaise, il y en a d'autres du côté de la rive gauche, très peu, moins que sur la rive droite. mais à simplement cet îlot 16. Pourquoi cet îlot 16 est-il particulier? Il est situé, pour ceux qui connaîtraient Paris, derrière l'hôtel de ville. Il longe le fleuve, il longe la Seine et il va à peu près jusqu'aux abords du côté du boulevard Henri IV et du Marais, c'est-à-dire de Saint-Paul. C'est cela l'îlot 16. Quelle particularité a-t-il et pourquoi les autorités se sont-elles intéressées à cet îlot en particulier?
Alors, il a d'abord la caractéristique d'être au centre de Paris et juste derrière l'hôtel de ville. Il abrite un nombre d'hôtels et un bâti assez prestigieux qui a été édifié après la résidence royale à la fin du Moyen-Âge. Mais il a aussi la réputation d'être un ghetto, c'est-à-dire d'abriter une population juive importante. On est là au sud, donc de la rue de Rivoli. Et c'est comme ça qu'il est désigné dans l'entre-deux-guerres, insalubre, un ghetto, et puis des monuments et un bâti qui mériterait d'être conservé. Et c'est toutes ces caractéristiques qui vont entraîner cette dynamique et ces débats surtout sur qu'est-ce qu'il faut faire dans l'îlot 16.
Avec une sorte d'obsession que vous retracez en 400 pages pour ce livre aux éditions Créafis, cette obsession qui va se transmettre de l'entre-deux-guerres à la Seconde Guerre mondiale, puis de la Seconde Guerre mondiale à l'après-guerre, jusque dans les années 80, aérer ce quartier, et comme le dit, vous le citez à propos de Caen, Jean-Claude Perrault, autre historien, aérer la ville mène à éliminer les choses et les êtres encombrants, et donc à éliminer des choses et des êtres encombrants dans ce quartier du sud du Marais, Isabelle Bacouche.
Oui, c'est d'ailleurs pour ça que l'îlot 16 était un terrain pour moi privilégié pour mettre en œuvre l'histoire urbaine que je pratique depuis plusieurs chantiers. C'est l'idée que, au prétexte de réhabiliter, renouveler, rénover les Mauvary, le bâti, on s'attaque aussi aux populations et on veut transformer les populations. Donc l'observation assez précise, pour moi l'îlot 16 c'est un peu comme un tube à essai sur lequel j'essaie de comprendre comment Paris se transforme. L'idée c'est bien quand même de transformer les populations et on peut dire que la dynamique a été enclenchée doucement mais qu'elle s'est réalisée en tout cas dans le Marais.
Oui, avec une volonté de renouveler la population de cet îlot 16, vous l'avez dit, assez composé d'immigrés juifs de l'entre-deux-guerres en particulier. Après les travaux, on imagine, dites-vous, un îlot avec une population qui serait diminuée de moitié, et dont le cadre de vie, dit-on à l'époque, des espaces verts, l'éloignement des grandes voies de circulation, permettrait d'imaginer un quartier peuplé, non plus d'immigrés juifs pauvres, mais d'artistes, de professeurs, d'écrivains, de fonctionnaires. C'est là où on construira la Cité des Arts, par exemple, la Cité internationale des Arts, dans ce même îlot 16, en l'occurrence.
Oui, c'est l'idée que les propriétés historiques, archéologiques et esthétiques du quartier appellent une population qui sociologiquement ressemble finalement aux propriétés du bâti. Mais si je me suis intéressée à l'îlot 16 aussi, c'est parce qu'il est le 16e sur cette liste de 17 îlots insalubres et que finalement, ça va être celui qui va être le premier quasiment, on va dire, mis en chantier de façon radicale, massive et systématique à partir de 41.
Oui, parce que par exemple, l'îlot 1 qui se situe du côté de Saint-Méry, un peu plus haut, dans Paris, cet îlot-là, les gens qui sont à l'intérieur de cet îlot vont se plaindre qu'on donne la priorité à cet îlot 16, alors qu'a priori, ça n'était pas eux qui étaient à privilégier, entre guillemets, dans cette rénovation urbaine. Et ils vont même porter plainte, enfin demander, mais pourquoi nous, on n'a pas les travaux qui commencent, les travaux ne commencent pas chez nous, mais ils vont commencer dans cet îlot 16, ça n'était pas normal selon eux.
C'est l'anomalie qui a attiré mon attention et c'est aussi parce que les acteurs que j'observe se plaignent effectivement de cette transformation de l'ordre établi en termes d'insalubrité. C'est aussi pour ça que j'ai mené l'enquête. Et l'enquête, effectivement, m'a conduite à un focus assez important sur la période de Vichy.
Alors, donc, 1941, avez-vous dit, c'est un moment important, puisque c'est le moment où on va mettre en œuvre justement les premières expulsions en 1942, pendant l'hiver, alors que l'hiver est très froid. On va chasser les gens de chez eux pour pouvoir commencer peut-être des travaux. Mais tout le monde dit, mais comment on va pouvoir faire des travaux en pleine guerre alors qu'on n'a pas de matériaux? bio alors que les matériaux de construction ne sont pas là? Pourquoi est-ce que vous faites cette expulsion, etc. Et vous allez tirer tous les fils dans votre livre qui est pour cela absolument extraordinaire, tous les fils qui nous conduisent à cette décision administrative, à son aberration. Et ces fils nous emmènent très loin puisqu'ils nous emmènent dans la profession d'architecte, qui sont les architectes qui vont participer à cette question-là, dans la question de l'immigration juive de l'entre-deux-guerres, dans les questions de ce mouvement moderne de l'architecture qui voudrait transformer Paris de façon assez radicale, dans les décisions administratives qu'il peut y avoir entre gouvernement de Vichy et occupants allemands dans ce même quartier de Paris. Et tout cela conduit à ces expulsions, à ces travaux commencés, ou ces destructions commencées pendant la Seconde Guerre mondiale, Isabelle Bacouche.
Oui, l'idée, c'était un peu de déconstruire cette histoire qu'on aborde souvent de façon un peu téléologique. C'est-à-dire, on dit, c'est un secteur sauvegardé parce que le bâti était prestigieux. Donc, j'ai tout déconstruit pour effectivement aboutir à ce moment clé de 41, qui montre que les autorités préfectorales et même le maréchal Pétain et son gouvernement décident d'entamer donc la résorption de l'îlot 16 en pensant profiter finalement des lois raciales et de la persécution antisémite, puisque persuadés que l'îlot était massivement peuplé de juifs, l'idée c'était qu'on éviterait la question du relogement, ce qui de fait ne sera pas pris en compte, et surtout qu'on échapperait aux indemnités qui étaient obligatoires, aussi bien pour les propriétaires que pour les locataires.
Mais il y avait effectivement beaucoup de juifs dans le quartier, mais il y avait aussi des gens qui ne l'étaient pas et qui vont mener une guérilla administrative, protester, demander véritablement à ce qu'ils soient relogés ou que les indemnités soient supérieures, même parmi ces juifs qui parfois vont survivre à la Seconde Guerre mondiale. Certains vont poursuivre le gouvernement pied à pied pour pouvoir soit récupérer des bâtiments et des appartements, soit récupérer des indemnités plus élevées que celles que voulait leur verser le gouvernement de Vichy. Enfin bref, il y a effectivement aussi tout un pan de votre travail, Isabelle Bacouche, sur le travail souterrain des habitants qui ne se laissent pas faire.
Voilà, l'idée, c'était d'échapper aussi au discours dominant de l'administration et du politique. C'est ce qu'on entend le plus dans les documents d'archives. Mais d'aller voir et d'aller écouter surtout tous ceux qui ont protesté, qui ont résisté, tous ceux qui sont finalement en bas et qu'il est plus difficile de saisir dans les archives, mais qui, en résistant, attire aussi l'attention de l'historien sur, finalement, l'anomalie de la mise en œuvre de ce chantier. Vous l'avez dit, il y aura des ordonnances allemandes qui interdisent les travaux, il n'y a pas de moyens de transport, il n'y a pas de matériaux, on ne peut pas circuler. Donc, d'ailleurs, l'opération va être assez vite bloquée. Et puis, bon, au moment où elle est lancée, on ne pensait pas que Vichy s'arrête. Enfin, le gouvernement Vichy tomberait en août 44.
Mmh. Donc, il y a des paradoxes aussi que l'on découvre en vous lisant. Certains qui sont opposés à ce type de travaux urbains vont devenir les principaux architectes de ce projet. En particulier Laprade, qui, avant la Seconde Guerre mondiale, en 1937, écrit un texte très fort, très polémique, c'est la tarte à la crème du moment, les régions dévastées et les HBM étant terminées, les îlots insalubres voient brusquement venir à eux une cohorte de démolisseurs et de reconstructeurs. Jamais on n'avait vu plus de haine accumulée contre la tuberculose. Il se moque à l'époque, en 1937. Et puis, curieusement, il va être un des principaux architectes de cette rénovation du Marais pendant et surtout après la Seconde Guerre mondiale, alors qu'il s'est tant moqué de ses petits camarades qui voulaient avoir des honoraires juteux travaillant sur ce type de quartier à rénover.
Oui, effectivement, Albert Laprade, Michel Rouspitz et Robert Danis sont les trois architectes d'opération qui sont nommés en 42. Et si j'ai aussi insisté sur la profession d'architecte, c'est que ça, l'observation de leur travail et de leur prise de position, et surtout de ce qu'ils vont effectivement engager sur l'îlot 16, permet de tisser des continuités entre l'avant et l'après-Vichy. C'est-à-dire que ce travail essaye aussi d'inscrire la période de Vichy dans une temporalité plus longue pour essayer de comprendre les continuités et les ruptures.
Oui, et en particulier dans le domaine de l'architecture, notre beau bâtiment dans lequel vous êtes, la maison de la radio construite par Henri Bernard, qui a fait sa main justement sur ce projet architecturaux du quartier du Marais, ou encore Louis Aretsch, grand architecte du mouvement moderne dans les années 60 et 70, lui aussi ayant participé avec d'autres architectes à cette question-là. Alors, ce qu'on découvre, c'est qu'effectivement, certains sont jetés hors de chez eux, que très vite... on ne peut pas assurer la sécurité, qu'on se dit mais qu'est-ce qu'on va faire de ces appartements, qu'est-ce qu'on va faire de ces meubles dont certains n'ont pas été emportés. De toute façon, malheureusement, certains des locataires sont partis déjà à Drancy, d'autres vont ensuite continuer leur sinistre trajet jusqu'à Auschwitz. Et donc, que va-t-on faire de ce qui se trouvait dans ces appartements? Que va-t-on faire pour éviter les pillages? Toutes les questions que n'avaient peut-être pas posées les rénovateurs de ce quartier, de cet îlot 16, avant la guerre et au tout début de cette guerre, Isabelle Bacouche.
Alors, effectivement, les expulsions sauvages et rapides vont être assez contre-productives, puisque finalement, les immeubles vidés vont être vandalisés, donc il va falloir les surveiller. Et puis surtout, dès 1944, la question du logement face aux milliers de sinistrés dans la région parisienne va faire qu'on va réinstaller, dès 1944, de nouveaux locataires, mais des locataires précaires, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas un bail en bonne et due forme et qu'ils peuvent être expulsés du jour au lendemain. Et c'est ça qui tisse le lien jusqu'au secteur sauvegardé, puisque je montre que la mise en œuvre du secteur sauvegardé ne répond pas seulement à des questions esthétiques, c'est pas seulement la volonté de Malraux, mais que si l'îlot 16 est rentré dans le secteur sauvegardé, c'est parce que c'était un véritable fardeau pour la préfecture de la Seine, que la gestion de ce patrimoine immobilier qui rapportait des loyers assez modiques et qui était dans un état qui demandait des réparations incessantes.
Alors donc, vous montrez bien cette continuité, justement, et surtout le fait que l'après-guerre ne change pas fondamentalement la donne, pourrait-on dire. Ce sont les mêmes qui se retrouvent au poste de responsabilité après la Seconde Guerre mondiale que pendant la Seconde Guerre mondiale. On trouve les mêmes noms. C'est d'ailleurs assez surprenant à vous lire, Isabelle Bacouche, qui sont en charge soit du contrôle de ces bâtiments, soit de l'architecture de ces bâtiments, soit de la gestion administrative de ce quartier. Ils sont là, après, comme auparavant.
Oui, la continuité administrative est étonnante. On les retrouve à des postes qui gravitent toujours autour de la question de l'habitat ou du domaine municipal. Mais Charles Reverdy, par exemple, qui a probablement été un des organisateurs de la rave du Veldiv, effectivement est toujours en fonction dans les années 50. Et Henri Drouin, qui procède aux expulsions et qui fait des comptes rendus très précis, en listant d'abord le nom des locataires juifs qui étaient absents et dont les appartements étaient mis sous scellés, il continue effectivement à revendiquer, au nom de lois qui avaient été prises en 40 et en 41 et qui ont été maintenues jusqu'en 58 pour faciliter l'expulsion, c'est-à-dire en fait pour organiser la réquisition, là il y a une continuité totale. Donc... En ce qui concerne l'aménagement urbain, la page n'a pas été tournée et il est vrai que si l'îlot 16 permet aussi de revenir sur cette période de Vichy qui a été explorée depuis les années 70, notamment par l'historien Robert Paxton, qui réédite son livre récemment. Mais là, on découvre les effets de Vichy et des lois raciales, notamment dans un domaine, on va dire, latéral ou dans un domaine parallèle qui n'est pas directement idéologiquement axé sur la persécution.
Alors, vous descendez très bas. C'est vraiment de la micro-histoire, c'est-à-dire qu'on connaît le nom des locataires, on connaît le nom des propriétaires, on connaît là d'où ils viennent, là où ils sont morts, lorsqu'ils sont morts pendant la Seconde Guerre mondiale, en particulier dans les camps d'extermination. Vous descendez très bas au point que des anecdotes nous font, dans ce contexte dramatique, sourire. Les propriétaires de l'île Saint-Louis qui protestent parce que, en fait, la poussière des chantiers de démolition poussée par les vents de l'autre côté de la Seine vont venir les empêcher de bien respirer. Et en particulier, ils pensent qu'il y aura des miasmes, parce qu'évidemment, il y a toujours cette peur des miasmes portés justement par ces populations étrangères arrivées dans l'entre-deux-guerres à Paris. et il y aura des miasmes et il pourrait toucher, avoir des maladies. Et donc, on s'étonne, on sourit et en même temps, on est horrifié de voir ce type de lettres que vous avez retrouvées dans les archives.
Alors, ces anecdotes permettent effectivement de prendre la mesure de la peur de cette insalubrité construite. Ça permet aussi, c'est ce que je fais dans le livre, hein, je ne suis pas absolument enfermée dans l'îlot 16, c'est-à-dire je montre comment dans d'autres quartiers parisiens et même au-delà, il est souvent question du Grand Paris, on essaie de construire des logements dans l'entre-deux-guerres pour reloger les habitants des îlots insalubres. Mais ces anecdotes me servent aussi d'indice. Il y en a une autre que j'ai tenu à restituer. C'est cette femme qui va être expulsée dans l'îlot 16, cette femme juive. Son mari est déjà interné à Beaune-la-Rolande et elle demande à ce qu'il puisse qu'il puisse avoir une permission pour déménager les machines. Ça, c'est en 42.
Parce que ces machines sont difficiles à déménager et il faut avoir le savoir-faire pour le faire.
Et ça veut dire que cette femme ne se rend pas bien compte de ce qui se passe à Beaune-la-Rolande et des raisons pour lesquelles son mari est à Beaune-la-Rolande. Donc ça permet aussi d'aborder la question de l'antisémitisme et de la persécution de façon très fine et selon les différents points de vue des acteurs.
Et sans téléologie, c'est-à-dire qu'effectivement, ces acteurs, malheureusement pour eux, ne savent pas ce qui va advenir le lendemain ou le surlendemain. Une question tout de même... Parce que au sortir de votre livre, on se dit, on comprend bien cet écheveau-là, mais on se dit, mais tout de même, toutes ces raisons, l'antisémitisme, la modernisation, se tissent pour pouvoir faire le destin de cet îlot jusqu'aux portes des années 80. Mais on ne comprend pas toujours très bien quand même ce qui fait que la machine est en route. Alors, on peut le deviner parce que déjà les plans du Grand Paris sont partis. Dès les années 30, on pense déjà au Grand Paris. Et on se dit, pourquoi, mon Dieu, pourquoi cet endroit, plutôt que les 16 autres, pourquoi cette détermination, cette volonté qui aboutira dans d'autres quartiers plus tard, mais avec autant d'affirmations et on trouve des réponses, mais on se dit quand même, il y a quand même une obstination qui nous surprend, Isabelle Vacouche.
Je pense que la force du mouvement qui s'est exercé sur l'îlot 16 relève précisément de la multiplicité des milieux sociaux qui étaient intéressés à sa transformation.
Intéressés, y compris financièrement.
Financièrement, il y a les architectes, parce qu'on a parlé de la Prade et de ceux qui vont être en fonction à partir de 42. Mais il y a des architectes modernistes dans le sillage de Le Corbusier qui font aussi des projets assez radicaux pour redessiner totalement le quartier. L'hôtel de ville et la préfecture de la Seine souhaitent installer une annexe qui finalement sera installée, c'est le bâtiment Morland qui a été construit par Albert Laprade dans les années 50. Donc en fait, il y a une sorte de concurrence des dynamiques qui va effectivement nourrir la mise en mouvement de ce morceau de Paris.
Alors expliquez-nous tout de même pourquoi on retrouve page 274 quelqu'un qu'on connaît bien et qu'on a tendance à bien aimer, même si certains ouvrages en particulier nous ont montré qu'il n'a pas toujours été le résistant qu'on avait imaginé pendant la Seconde Guerre mondiale. Le cofondateur des Annales, Lucien Febvre, en plein milieu de cette histoire de l'îlot 16 à Paris, dans le Marais, pendant les années de guerre.
Parce qu'il appartient à un des cercles d'acteurs auxquels je me suis intéressée, c'est-à-dire tous ces savants, ces érudits, ces hommes de lettres, ces défenseurs du patrimoine qui, en 41, écrivent au maréchal Pétain pour sauver le vieux Paris. Il est question aussi de l'église Saint-Germain-des-Prés qui est menacée par le prolongement de la rue de Rennes et pour sauver l'îlot 16. Et Lucien Febvre, effectivement, publie dans les Annales un tout petit texte où il défend...
Maintenir Paris contu.
Voilà. L'idée, c'est de conserver ce quartier. Et il adhère effectivement à l'idée que en restaurant ces bâtiments qui sont en fort mauvais état, hein, l'hôtel d'Aumont et l'hôtel de Beauvais, abritent des logements, des familles. Et de toute façon, si tout ce bâti était en mauvais état, c'était aussi à cause du moratoire des loyers qui avait été proclamé pendant la Première Guerre mondiale, enfin à l'issue de la Première Guerre mondiale, ce qui fait que les propriétaires n'entretenaient pas les bâtiments parce que ça ne leur rapportait pas. Mmh. Et donc Febvre fait partie de tout ce cénacle de sommité, on va dire, intellectuelle.
Écrivain, artiste, historien.
Voilà,
d'art.
Ils sont plus de 100, je crois, qui envoient une pétition pour défendre...
Au maréchal Pétain.
Au maréchal Pétain, oui. Donc, Vichy est en prise avec le chantier.
Merci Isabelle Bacouche. Donc votre livre s'intitule Paris transformé, le Marais 1900-1980 et c'est publié dans une très belle édition aux éditions Créafis qui nous ont habitués justement à cette qualité graphique qu'on leur reconnaît dans ce domaine d'histoire urbaine. Et puis notons aussi la parution donc sous votre signature mais également de plein d'autres, Boris Bove, Robert Desimons, Claude Gauvard et d'autres, donc de Notre-Dame et l'Hôtel de Ville, incarné Paris du Moyen-Âge à nos jours, aux publications de la Sorbonne. Et on aura le plaisir de vous entendre dans cette émission que nous avons enregistrée il y a quelques temps, demain, autour de la question de la Seine. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
France Culture, la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin.
Bonjour Anaïs bonjour. Quien et bonjour à vous. Christophe Granger, merci d'être là pour l'ouvrage que vous préfacez, traduit par Morgane Cézena, dans la nouvelle maison d'édition Anamosa, dont vous êtes le directeur scientifique, donc, et qui s'intitule « Les émeutes raciales de Chicago, juillet 1919, signé Carl Sandburg ». Alors un journaliste, un poète, c'est ça, qui, à chaud, il fait de l'histoire immédiate, raconte ce qui se passe dans Chicago pendant l'été 1919 et il publie ce livre à la fin de l'année 1919.
C'est ça. Pas simplement journaliste et poète, il est devenu un écrivain très renommé, enfin une institution littéraire aux États-Unis.
Et puis il a un parcours un petit peu atypique. Il a un parcours. C'est pas quelqu'un qui entre dans la carrière de journaliste comme ça immédiatement.
Oui, du tout. Il a un parcours de vie assez bohème au départ. Il est descendant d'immigrés suédois et dans sa jeunesse, il se met à parcourir un peu le pays, à être maître d'hôtel, maçon, livreur de lait, ainsi de suite, avant de s'engager politiquement. Auprès du Parti Socialiste Américain, ce qui est vraiment le parti radical le plus à gauche à ce moment-là. Et c'est là qu'il se met à faire des conférences, à s'emparer un peu de l'actualité qu'il côtoie immédiatement, à faire de la poésie, de la chanson aussi, puisqu'il sera connu pour ça par la suite, et à commencer une carrière de journaliste au Chicago Daily News, justement, où sont publiées les différentes chroniques qu'il compile à la fin de l'année 1919 pour faire ce livre. Et moi, ce qui me semblait extrêmement intéressant, c'est d'abord, bon, il n'est pas très connu en France, mais aux États-Unis, c'est une institution, et il parle d'émeutes raciales qu'on a oubliées. Bon, nous, en France, on a une vision de l'histoire américaine un peu hâtive, mais y compris aux États-Unis. C'est-à-dire, quand on fait la généalogie des émeutes raciales américaines, on remonte rarement avant les années 60. Et là, on est 1919, Chicago. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il est au moment où elle se passe.
Oui, Chicago, en particulier, une ville en profonde transformation. On le sait depuis le livre commun d'Andrew Diamond et de Papandiaï, donc sur cette histoire relativement tardive d'une ville qui se crée relativement tardivement, qui se développe dans la deuxième moitié et même à la toute fin du 19e siècle, en particulier autour de ses grands abattoirs, mais pas simplement, des grandes usines d'automobiles qui se créent à ce moment-là. Et il y a déjà un témoin de ce Chicago brouillon, ce Chicago bouillant de la fin du 19e ou du début du 20e, c'est Upton Sinclair avec son livre The Jungle, donc qui raconte déjà cette ville qui est très très chaude, pourrait-on dire, pour les États-Unis.
C'est ça, très difficile. Et ce que Upton Sinclair fait, c'est essayer de rendre visible toute cette population, notamment des ouvriers lituaniens, des abattoirs, qui sont absolument invisibles et qui sont une des forces compliquées pour la ville. Parce que la ville s'est construite à partir de ces vagues d'immigration, a eu des politiques de ségrégation très fortes au 19e siècle. Et là, Sandburg s'inspire de Upton Sinclair et fait pratiquement la même chose pour les émeutes, lui, pour le coup. Pas pour le quotidien, mais pour les émeutes. Ouais.
Anaïs Quien.
Oui, Christophe Granger, vous préfacez cette source finalement, c'est une source qui nous informe, une source de l'époque, de ces émeutes raciales de Chicago. Ce n'est pas une petite préface, hein, puisque vous avez repris finalement tout le corpus de sources de ces émeutes raciales de 1919 pour resituer les textes, le corpus de textes, le corpus d'articles, de chroniques de Carl Sandburg. Et ce qui frappe immédiatement lorsqu'on passe directement à cette source et après votre préface, c'est que finalement Carl Sandburg fuit l'événement. C'est-à-dire qu'on a une chronique sur l'événement lui-même, mais finalement, alors qu'il vient de commencer sa série de reportages, si j'ai bien compris, au moment où, où ces émeutes vont commencer, il fuit l'événement en continuant une enquête au long cours sur tous les aspects finalement de la racialisation de cette société de Chicago.
C'est exactement ça. Alors il fuit, il faudrait étendre, c'est-à-dire il fuit, il évite ou je ne sais quoi, il faudrait qualifier ça comme il faut.
Il est décrit très peu, il n'en donne pas l'actualité, ni les suites.
Et c'est un parti pris très fort qui nous paraît encore plus fort, puisqu'il est au moment de ces émeutes-là, il a fait que 3 des 16 textes, je crois qu'il y a, avant les émeutes, donc tout le reste se fait au moment des émeutes, et il ne décrit rien, pas de sang, pas de bagarre, pas de... Et lui, ce qu'il veut faire, c'est faire comprendre, c'est-à-dire justement essayer d'aller au-delà de ce que font ses collègues journalistes, parce qu'il y a au même moment beaucoup de descriptions de ces émeutes, des scènes épouvantables. Et lui prend le parti de regarder en fait, ce qui fait la ville et ce que la ville a fait à ses habitants noirs qui ont été ghettoisés, qui commencent à l'être à ce moment-là jusqu'à aujourd'hui. Et donc il essaie de faire comprendre les tensions raciales au sein de la ville en essayant non pas de dire il y a des blancs et il y a des noirs, ils s'entendent pas, mais de faire comprendre comment on a ghettoisé une population noire, comment est-ce que l'accès au logement, l'accès à l'emploi pose des problèmes pour les populations noires, et donc il veut faire comprendre tout ça. Et également, parce qu'il était profondément humaniste de ce point de vue-là, essayer de trouver des points d'ancrage pour, non seulement pour faire exister une parole noire, parce qu'il rencontre beaucoup de cette population noire, et il leur donne beaucoup la parole dans ses chroniques, mais aussi faire exister une parole blanche sur ce qu'on appelle à l'époque la question noire ou le problème noir, essayer de faire coexister ces points de vue pour dire, il y a un problème qui ne se limite pas à la question raciale. Et je pense que c'était une de ces richesses-là, parce que non seulement quand on le compare aux journaux de l'époque, il y a deux lectures très traditionnelles des émeutes au moment où elles se passent. La première, c'est de dire, c'est la faute des Noirs, ils sont pas civilisés, ils sont pas... Regardez, la preuve, ils vivent qu'entre eux, et ainsi de suite. Et il y a une autre théorie, si on peut dire, qui est, c'est les bolcheviks qui manipulent les Noirs, qui veulent se soulever contre l'idéal américain.
Alors qu'en fait, il s'agit d'un club d'athlétisme.
Alors les clubs d'athlétisme, c'était le nom...
Un club de jeunes blancs.
Justement. Voilà, même beaucoup de clubs de jeunes blancs s'appelaient club d'athlétisme pour être présentable. Souvent des catholiques irlandais, et en gros c'est des gangs de petites frappes qui étaient déjà connus avant les émeutes pour semer un peu la terreur dans les quartiers qu'ils occupent, parce qu'il y a aussi une logique territoriale très forte. Qui a le droit de marcher dans telle rue, à qui appartient telle
ville. Ils sont en bordure de Southside, qui est le quartier dans lequel les Noirs se sont réfugiés depuis quelques années.
Exactement. À l'issue de la grande migration, justement, parce que la ville est en profonde mutation à ce moment-là.
Oui, c'est une ville qui change d'identité entre l'amont et l'aval de cette Première Guerre mondiale.
Ouais, complètement. Parce que le mouvement ne concerne pas que Chicago, mais Chicago est la ville du Nord qui attire le plus de la population du Sud qui fuit. D'abord, qui fuit les exactions, parce que depuis la guerre de sécession, les lynchages de Noirs et les émeutes raciales continuent dans les États du
Sud. La population noire de Chicago va doubler entre 1910 et 1920.
C'est ça.
Plus que double.
En réalité, et donc on les installe, ils viennent justement dans les usines d'armement pendant la guerre, et ils restent ensuite. Et ce qui se passe, c'est qu'on les installe, et ils s'installent par habitude dans ce quartier, un quartier très particulier, qui est la Black Belt, qui fait 2 km sur 6 ou 7 km de haut, en bordure du lac Michigan, pardon. Et donc la ville a géré ce doublement de la population qu'on installe au même endroit.
44 000 en 1910, 100 000 ou 110 000 en 1920.
Ils étaient à peine 15 000 à la fin du 19e siècle. Donc c'est monumental et ça pose des problèmes urbains, des problèmes de spéculation.
On les entasse dans des endroits sans construire finalement les logements nécessaires.
Il n'y a pas eu de construction aussi parce que c'était la guerre. Et donc à l'issue de la guerre, ça pose des problèmes insolubles de à la fois logement, avec la spéculation sur, puisque c'est occupé par des Noirs, les Blancs désertent, donc on a des quartiers qui deviennent exclusivement noirs en quelques mois à l'issue de la guerre, et aussi des problèmes d'accès au travail, puisque une partie des soldats blancs partis combattre en Europe, en France notamment, reviennent et reprennent les postes. Donc ça pose des tensions raciales pour ces Noirs qui se retrouvent à être soit sans emploi, soit dans les abattoirs.
Alors ce qu'on n'a pas dit, c'est le style en l'occurrence de Carl Sandburg, donc la traduction de Morgan Cesena, qui m'a fait penser à quelque chose de quasiment concomitant, puisque la naissance du roman policier, c'est le début des années 20, et en particulier chez Dashiell Hammett, c'est à peu près le style de Dashiell Hammett, des phrases extrêmement courtes, et qui disent ceci, ce qu'on appelle les émeutes raciales de Chicago, a débuté un dimanche sur une plage. Alors qu'il nageait, un jeune noir a franchi une ligne de ségrégation imaginaire. Des garçons blancs lui ont jeté des pierres et l'ont fait tomber dans un radeau de fortune. Il s'est noyé. Des gens de couleur se sont précipités vers un policier et ont réclamé l'arrestation des jeunes qui lançaient des pierres. L'agent a refusé. Et tandis qu'on ramenait le corps du noyé, d'autres pierres ont été lancées des deux côtés. Le policier a persisté dans son refus d'intervenir. Des bagarres ont alors éclaté et se sont propagées à tous les coins de la Black Belt. C'est le début donc de ce récit. Et on se dit, voilà, c'est à l'os. On ne peut pas être plus à l'os, effectivement. Très proche d'ailleurs d'Upton Sinclair, mais aussi très proche de Dashiell Hammett quand il fait La Moisson Rouge dans les années 1922 ou 1923.
Oui, c'est intéressant. Comme le style participe aussi de ce côté brut, parce que c'est très difficile de saisir des meutes raciales qui vont faire 38 morts et qui sèment. Ça dure 13 jours, mais c'est apocalyptique dans la ville, avec des gangs de blancs dont on parlait qui traversent la Black Belt en voiture et qui dégomment tout ce qui bouge, des noirs qui, contrairement aux autres émeutes dans d'autres villes américaines, se rebellent, enfin se rebiffent, et donc elles aussi répliquent, font des attroupements, s'en prennent à des blancs. Donc il y a 23 morts du côté des noirs et 15 du côté des blancs. Donc c'est pas simplement à sens unique, et il y a vraiment un climat de panique pas possible. Les attaques des voitures. Les maisons sont incendiées, les tramways sont saccagés, et on s'empare, des attroupements de blancs s'emparent des passagers noirs et les lynchent pendant de longues heures.
Il y a un personnage d'ailleurs auquel on a la sensation que vous êtes attaché, Christophe Granger, et aussi qui est mis au premier plan par Carl Sandburg, ce sont les spectateurs, c'est-à-dire comment les spectateurs de toutes ces violences vont se faire participants ou non, mais comment ils décrivent finalement cette montée de la violence et cet emballement qui les amène à y participer d'une manière ou d'une autre finalement.
Mais en réalité, alors c'est un des points fascinants, parce que c'est aussi l'une des clés de l'école sociologique de Chicago, d'aller regarder que fait la foule, qu'est-ce que c'est que cette chose-là.
C'est d'ailleurs une des singularités de cette ville de Chicago, c'est que c'est une très grande ville d'immigration et c'est une des grandes villes de l'histoire de la construction de la méthode sociologique.
Absolument, et Sandburg est un peu un point aussi de départ assumé comme tel. Ce qui est intéressant sur la foule, c'est la grande enquête. Parce que l'une des réponses après les émeutes a été de faire une enquête, de nommer une commission d'enquête pour reconnaître les causes et ainsi de suite. Et la partie de la foule, c'était un des mystères pour tout le monde. C'est-à-dire, comment des gens qui, a priori, mis à part le fait d'être blancs, mais peuvent être lituaniens, italiens et autres, se retrouvent à lyncher des Noirs. Et ce que Sandburg décrit, et ce que la commission en question décrira beaucoup aussi, c'est l'effet de je passais par là, je voulais voir ce que c'était et je participe. Voilà, j'ai aucun grief, je les connaissais pas, mais j'y vais.
Mais est-ce qu'on peut situer ces événements dans une logique de sortie de guerre, c'est-à-dire une brutalisation indirecte d'une société, parce qu'on est quand même très loin des fronts de la Première Guerre mondiale, mais d'hommes qui reviennent et qui ont manipulé des armes pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, et qui reviennent de ce front-là, de ce front extrêmement violent, sur un territoire qui n'a pas grand-chose à voir avec le conflit européen, mais qui les met dans une situation de violence.
Là où c'est compliqué, c'est que c'est oui et c'est non. C'est-à-dire que la forme de brutalisation, elle tient pas au regard des formes de brutalité qu'il y avait avant. C'est-à-dire qu'il y a des attentats contre des maisons noires, on plastique des maisons occupées par des noirs pendant la guerre, et des gens qui n'ont rien à voir avec ça. En revanche, ce qui est très clair du point de vue de l'effet de la guerre, c'est le retour des soldats noirs. C'est-à-dire les soldats noirs qui ont combattu au front et qui disent, on a été dignes là-bas, on a mérité notre place là-bas, on la veut ici aussi. Et c'est-à-dire, on veut autant d'égards que les soldats blancs qui reviennent, mais on veut autant d'égards que les blancs qui habitent ici. Et ça crée un problème, une tension raciale, mais palpable. C'est-à-dire, il y a des campagnes de presse dans les journaux blancs qui sont, il faut se débarrasser des nègres.
L'invasion des hordes de
voilà,
nègres.
Ce qui est très brutal et très violent. Certains journaux montent des souscriptions pour renvoyer les noirs dans les états du sud d'où ils viennent. Donc, il y a ça à la sortie de la guerre. Il y a des tensions qui se superposent et qui trouve le moment de la question du ghetto, parce que tout se passe sur une plage, aux abords du ghetto noir, et le point de départ, c'est ça. C'est-à-dire que assez vite, la rumeur, c'est la police a pris fait et cause pour les blancs contre les noirs, donc ça s'envenime.
En fait, la police n'a rien fait.
La police n'a rien fait, mais alors quand on dit ça, on rentre aussi dans ce registre. Il y a des policiers noirs aussi, donc c'est compliqué de tenir ça en place. En revanche, ce qui est clair, ce qui est sûr, c'est que les routines policières qui précédaient les émeutes et qui ont accompagné les émeutes, parce que des policiers blancs ont refusé d'intervenir, sont parfois passés devant des attroupements violents ou des lynchages et n'ont rien fait. Donc ça participe de cette idée pour les Noirs que bah, si la police fait rien, c'est à nous de le faire. Et donc, le cycle vindicatoire se perpétue comme ça.
Je découvre, je ne connaissais pas ce terme, ça doit être un terme en usage dans les travaux sociologiques, le terme d'entrepreneur d'émeute que vous utilisez dans votre préface, en l'occurrence Christophe Granger. Alors je ne sais pas si c'est vous qui l'inventez ou si vous le reprenez d'autres personnes. En tout cas, je trouve ça effectivement intéressant puisque ça permet de dresser des sortes de portraits qui ne sont pas des portraits robots, mais des portraits assez précis justement de ceux qui se lancent dans ces émeutes, qui en sont les leaders. Ces gangs d'Irlandais en particulier, installés tout près des quartiers des abattoirs, dont il faut le reconnaître aussi dans le beau travail d'édition que vous faites, on voit aussi les méfaits, puisqu'il y a certaines photos qui sont retranscrites, qui sont absolument terribles, où on les voit avec d'énormes pavés à la main, en train de courir, et on imagine qu'ils courent après des Noirs. Ils ont un chapeau d'été, puisque nous sommes en plein été, ils sont en bras de chemise, et ils y vont avec chacun deux pierres, l'une dans chaque main, en l'occurrence Christophe Granger.
Et ce qu'on voit aussi sur cette photo, bon, c'est pas très radiophonique, mais on voit qu'une bonne partie sont quand même très jeunes. Il y a des gamins dedans, il y a des gamins de 14-15 ans. Et quand je dis entrepreneur d'émeute, c'est ça, c'est-à-dire que les émeutes servent de pas de prétexte, le mot est trop fort, mais c'est presque ça. De toute façon, ce sont des petites frappes qui ont l'habitude d'en découdre entre elles, d'en découdre avec la police, d'en découdre avec les Noirs.
Oui, on est proche de Gang of New York tel que bah, ça a été décrit par Scorsese.
C'est un peu ça l'idée,
et ça n'est pas un événement isolé.
On est à l'été.
Une des raisons, d'ailleurs, je disais tout à l'heure que Carl Sandburg semblait fuir l'événement, mais c'est surtout que ça n'est pas un événement isolé. Finalement, on n'est pas dans un événement extraordinaire. D'ailleurs, vous publiez à la fin de l'ouvrage, une carte des États-Unis qui retrace tous les lieux, toutes les villes où ont eu lieu des émeutes similaires.
Et sur cet été-là, ce que le poète afro-américain James Weldon Johnson appelle le Red Summer, c'est-à-dire que déjà, si on invente une qualification, c'est que c'est pas juste à Chicago. Ça commence avant Chicago dans les États du Sud, Alabama, Tennessee et autres, Géorgie, et petit à petit, Chicago est presque au milieu et sert en fait de point d'accélérateur pour toutes celles qu'il y a ensuite, qui sont plutôt dans les États du Nord-Est, où ça commence. Alors là, c'est un jeune noir qui s'approchait de la partie blanche, enfin réservé aux blancs de la plage. Ailleurs, c'est une rumeur de viol de femmes blanches par des noirs. Ailleurs, c'est une prison qui a été prise d'assaut ou un prisonnier qui s'est évadé. En tout cas, l'idée, c'est qu'il y a, à ce moment-là, à cet été-là, une vraie flambée d'émeutes raciales dans les États-Unis. Oui, ça, c'est sûr. Et Sandburg ne l'ignore pas, ça, c'est clair. Ce qui est très intéressant pour lui, c'est que... Alors, Chicago sont vraiment les plus violentes et les plus meurtrières. Et il les prend, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire il les prend sur le vif. Mais effectivement, il faudrait les regarder. Et puis, ça s'inscrit dans des traditions plus anciennes. C'est pas les premières. Le Red Summer n'est pas la première série d'émeutes aux États-Unis. Il y en a eu en 1906, il y en a en 1917, et il y en aura d'autres après.
Anaïs Kien.
Oui, on disait tout à l'heure, ce témoignage, cette série d'articles de Carl Sandburg n'est qu'une pièce du puzzle documentaire sur cet événement, sur ces événements des émeutes raciales de Chicago en juillet 1919. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à ce document-là en particulier, qui est un Granger?
Alors, il y a la version off et la version...
Donnez-nous les deux.
ce qui peut mener assez facilement à s'y intéresser, c'est que les émeutes raciales aux États-Unis sont une histoire actuelle, contemporaine.
On a l'impression que pas grand-chose n'a changé depuis.
Mais en réalité, c'est un vrai mystère. Enfin, un vrai mystère. Si on le regarde simplement du point de vue de la production des violences elles-mêmes et de ce qu'elles font. C'est-à-dire, il y a des morts du côté des Noirs, il y a des violences policières. Et ce que tout historien cherche à comprendre, c'est quand même ça. C'est une forme de rémanence dans l'histoire américaine. Là, en l'occurrence, la grande clé, c'est la racialisation. C'est-à-dire que c'est pas la question du problème entre les Noirs et les Blancs. C'est ce qu'on fait des Noirs, en l'occurrence, et la manière dont on construit une forme de ségrégation raciale. On les met au même endroit, on leur interdit un certain nombre d'accès à certains lieux, à certains emplois, à certains... Et après, il y a cette forme d'étonnement. Si on prend l'histoire longue ou moyennement longue de Chicago, là, le ghetto qui se constitue à ce moment-là, s'est étendu ensuite, mais s'est étendu aussi en termes de délabrement. C'est un des quartiers noirs les plus terribles des États-Unis, avec l'abandon des autorités publiques, avec la mortalité infantile comme dans les pays du tiers-monde.
Une manipulation électorale de ces populations noires.
Bien entendu, mais qui date de l'époque. Enfin, qui date de l'époque, qui existe aussi à l'époque. Le maire de Chicago au moment des émeutes de 1919, William Big Bill Thompson, qui est un maire républicain, manipule les votes noirs. C'est-à-dire que les noirs votent pour lui.
C'est un negro lover, c'est ça?
Voilà, c'est ça. Il est pro-noir, pro-nègre, comme on disait à l'époque, et il leur promet des postes, il leur promet un emploi ou un logement, et en échange, il vote pour lui. Donc il y a sept. Et il est passablement corrompu par ailleurs. Chicago est déjà le lieu de la pègre que ça deviendra dans les années 20-30. Et donc il y a une manipulation de ces problèmes-là. En revanche, la municipalité ne fait rien pour régler la question de la ghettoisation de ces 90 ou 100 000 noirs qui s'installent en très peu de temps au même endroit.
Ouais, et oui, en fait, on voit que cela rejoint des préoccupations que vous avez en tant qu'historien aussi. Cette question de la logique sociale des affrontements raciaux, c'est quelque chose qui vous intéresse et qui vous dit qu'il y a derrière ce qualificatif, d'ailleurs qui est le titre de ce les émeutes raciales de Chicago, il y a autre chose. Ça peut être des émeutes sociales.
La version off.
En fait, c'est la version off. Oui, c'est-à-dire que je m'étais intéressé. J'étais venu ici d'ailleurs. Je m'étais intéressé moi aux émeutes françaises au même moment sur les plages, puisque là tout commence sur une plage. Sur les plages, on a. Alors, il faut pas dire l'équivalent, ça ressemble pas, mais elles sont sociales. C'est-à-dire, on a beaucoup d'émeutes et de bagarres de plage très très violentes, très physiques, même s'il n'y a pas de mort, avec l'Église qui s'en prend aux baigneuses trop dénudées. Les municipalités qui font des arrêtés pour interdire tel ou tel coin de la plage ou tel type de vêtements sur les plages. Et ça a été très violent en France aussi. Et moi, quand je cherchais de la documentation, j'étais tombé sur cette histoire de plage à Chicago. C'était quand même, donc ça doit faire 7 ou 8 ans. Enfin voilà, il faut le temps que ça mûrisse. Et oui, ça c'est la version off. C'est-à-dire, ça se croise. La question de la plage est intéressante aussi à Chicago parce que c'est un lieu de loisirs partagé, mais dans tous les sens du terme. C'est-à-dire, les noirs et les blancs vont faire les mêmes activités côte à côte, mais pas ensemble. Mm-hmm. C'est très intéressant, ça.
Oui, c'est aussi ce que raconte cette historienne dont le nom m'échappe momentanément, qui a travaillé sur la plage à Los Angeles.
Elsa de Vienne.
Voilà, et qui travaille sur cette question de la façon dont on a le droit de porter ou pas, par exemple, des vêtements de bain et jusqu'où à l'intérieur de la ville et comment la plage est une sorte de frontière invisible qu'il faut ne pas transgresser. Et là, en l'occurrence, ce jeune noir, il avait transgressé une frontière qui était invisible et c'est comme ça qu'il en est mort. Merci Christophe Granger d'être venu nous présenter le livre que vous préfacez donc aux éditions Anamosa, toutes nouvelles éditions, traduit par Morgan Cessana, donc le livre de Carl Sandburg, Les émeutes raciales de Chicago, juillet 1919. Je rappelle que nous avons parlé du travail d'Isabelle Bacouche et en particulier de Paris transformé, le Marais 1900-1980, publié aux éditions Créafis, et que le feuilleton d'ouverture sur la guerre froide, eh bien, était autour aujourd'hui de Ho Chi Minh à Moscou. Nous continuerons notre semaine avec vous, Anaïs.
Avec vous, Emmanuel, cette série de portraits de villes en mouvement, nous commençons avec Paris, de la Seine, le fleuve, à la Seine, le plateau de spectacle et peut-être aussi le théâtre social de la ville.
C'est exactement ça, 1750-1900, donc avec 5 historiens et historiennes qui nous accompagneront. C'est le documentaire de demain que nous avons réalisé avec Renaud Delmar, et puis on se retrouve mercredi.
Et puis nous continuons mercredi avec Lisbonne, et puis ensuite Bagdad. Jeudi, Bagdad.
Et
vendredi, Londres.
Exactement. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Marivonne Bolivier, Aurélie Marseille, Yanis Djoudad était avec nous à la technique et Renaud Delmar à la réalisation. Vous pouvez écouter ou réécouter cette émission aussi longtemps que vous le souhaitez sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr, la télécharger dans l'année qui suit sa diffusion et discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire.